not for you.
Il sera au programme Bob Dylan, on parlera de sa décennie 70 qui a été fort intéressante. En attendant, vous entendez Olivier Delacroix qui s'installe tranquillement, il est 22h, je vous donne rendez-vous demain, ciao.
Europe 1, il est 22h. Et le journal, c'est avec vous Maëlle Hassani, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce mardi soir à la une de votre journal à Nice. Dès le 1er mai, les mineurs de moins de 13 ans auront l'obligation de rester chez eux la nuit. Et ce sera comme ça durant toute la période estivale. Décision du maire Christian Estrosi face à la flambée de violence chez les plus jeunes. Cette règle existait déjà dans la ville entre 2009 et 2020 et elle a porté ses fruits, selon l'élu Horizon, invité d'Europe 1 Soir. Vous l'entendrez. 5 migrants, dont une fillette de 7 ans, sont décédés tôt ce matin au large de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Les victimes ont chuté du bateau sur lequel elles se trouvaient, aux côtés d'une centaine d'autres personnes. Le maire de la ville, touché par ce nouveau drame migratoire, lance un appel à l'aide. Dans ce journal également, la chef des députés LFI, Mathilde Panot, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Et on parlera de cette convocation avec l'invité politique d'Europe 1 Nuit, le député insoumis Adrien Clouet. Face à la violence des mineurs, plusieurs maires décident d'imposer un couvre-feu pour les plus jeunes. C'est le cas depuis hier pour les moins de 13 ans à Béziers et ce sera à nouveau le cas à Nice à partir du 1er mai. Le maire Christian Estrosi décide de réactiver cette règle en vigueur dans sa commune de 2009 à 2020. Pour l'élu Horizon, invité d'Hélène Zélani d'un Europe 1 Soir, cette mesure a porté ses fruits pendant 11 ans.
Nous avions constaté une baisse des délits, mais surtout qu'il y avait beaucoup trop de mineurs. Et nous avions fait régresser, grâce à cela, cette présence. Un gamin de 13 ans, à 23 heures, sa place est chez ses parents et nulle part ailleurs.
Mais justement, comment ils réagissent, les parents? Est-ce qu'ils vous suivent ou est-ce qu'ils font de la résistance?
Non, une grande majorité d'entre eux considèrent que de pouvoir, là où ils sont quelquefois dépassés par un ado un peu dur et réfractaire, aidé par cette décision du maire, pour pouvoir leur faire comprendre que sortir peut les conduire à être confrontés à de graves difficultés, à se faire interpeller. Donc une immense majorité de parents qui, je dirais, ne sont pas forcément démissionnaires, mais ont besoin d'être accompagnés, sont au contraire extrêmement satisfaits de cette mesure.
Christian Estrosi, le maire Horizon de Nice, invité d'Europe 1 Soir tout à l'heure, et donc dès le 1er mai. Et pendant toute la période estivale, les mineurs de moins de 13 ans auront donc l'obligation de rester chez eux à Nice entre 23h et 6h du matin. La violence chez les mineurs, illustrée par une nouvelle affaire à Toulouse. Un collégien de 14 ans sera présenté à un juge des enfants demain. Il est en garde à vue depuis hier, après avoir agressé son professeur en plein cours. Cet adolescent, reconnu handicapé en raison de problèmes psychologiques, a giflé l'enseignant à 4 reprises avant de le menacer de mort. La victime et le principal du collège ont porté plainte. Kenji Girac devrait être entendu par les enquêteurs dans les prochaines heures. Le célèbre chanteur est toujours hospitalisé ce soir, mais il va bien et il est désormais tiré d'affaire, selon son manager qui dit avoir pu échanger avec lui. L'artiste déclare pour le moment qu'il s'est blessé lui-même par accident en manipulant une arme, mais aucune piste n'est écartée. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide involontaire. C'est la deuxième personnalité de la France Insoumise convoquée par la police pour apologie du terrorisme. La chef des députés LFI, Mathilde Panot, va devoir s'expliquer sur le communiqué publié par son groupe après les attaques du Hamas le 7 octobre en Israël. Vendredi dernier, la militante franco-palestinienne et candidate aux élections européennes, Rima Hassan, annonçait elle aussi une convocation similaire. Alexis de la Fontaine, qu'est-ce qui est reproché à Mathilde Panot ?
Eh bien, les enquêteurs souhaitent entendre Mathilde Panot clarifier le communiqué de la France Insoumise du 7 octobre qui rejetait le caractère terroriste de l'attaque du Hamas, des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, selon l'avocate Sarah Saldeman.
Il faut vraiment la réunion de deux éléments, à savoir un élément matériel et un élément moral. Là, Mathilde Panot expliquera si, selon elle, elle a voulu valoriser le terrorisme ou pas, même si pour nous, on peut bien sûr se poser la question, mais d'un point de vue juridique, ce n'est absolument pas certain. C'est probable, mais pas certain.
Mathilde Panot risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour apologie du terrorisme. Une convocation inadmissible, répond son avocate Jade Doucelin.
Que les propos de Mme Panot puissent faire l'objet d'un débat politique, c'est une chose. Qu'ils puissent faire l'objet d'une convocation judiciaire pour apologie terrorisme, c'est insensé. Et encore une fois, c'est à notre sens une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression. Et nous sommes sur une dérive du parquet extrêmement dangereuse et préoccupante.
Après Rima Hassan et Mathilde Panot, d'autres membres de la France Insoumise pourraient être convoqués très prochainement pour des propos similaires comme Jean-Luc Mélenchon ou Daniel Obono.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et justement Jean-Luc Mélenchon s'est indigné à l'annonce de cette convocation de Mathilde Panot pour le leader insoumis. Il s'agit d'un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. On en parlera avec l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Dans quelques minutes, le député insoumis de Haute-Garonne, Adrien Clouet. On attend les prévisions exactes dans la soirée, mais il faut s'attendre à une grève d'ampleur dans les aéroports jeudi. Jusqu'à 75% des vols pourraient être annulés à l'aéroport d'Orly, 65% à Roissy, et de nombreux retards sont à prévoir. Conséquence d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens. Après l'échec de négociations sur l'organisation du travail avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, un autre préavis de grève est déposé durant le week-end de l'Ascension, les 9, 10 et 11 mai prochains. Le gouvernement annonce un ballon d'oxygène pour les EHPAD. 650 millions d'euros sont débloqués pour faire face aux grosses difficultés financières du secteur. Près de 200 millions d'euros seront affectés aux établissements publics, dont près de 85% ont enregistré un déficit l'année dernière, selon la Fédération hospitalière de France. La ministre déléguée aux personnes âgées, Fadila Khattabi, sera l'invitée société d'Europe 1 Bonjour demain à 5h40 au micro d'Alexandre Lemaire.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
Les tentatives de traversée clandestine de la Manche ont fait au moins 15 morts depuis le début de l'année. Le dernier drame en date s'est joué au large de Vimereux, dans le Pas-de-Calais. Tôt ce matin, 5 migrants ont perdu la vie, dont une fillette de 7 ans. Lionel Gougelot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Au moment du naufrage, 112 personnes se trouvaient sur un seul bateau.
Oui, d'ailleurs, autant de candidats à la traversée sur un seul et même bateau, c'est du jamais vu. Et quant à quelques centaines de mètres de la plage, l'embarcation a subi une panne moteur. Il y a eu vraisemblablement un mouvement de panique. Des migrants sont tombés à l'eau. Les secours arrivés sur la zone les ont repêchés, mais ont découvert des passagers inanimés. 5 d'entre eux n'ont pas survécu. 3 hommes, une femme et une fillette. Bernard, un touriste, a assisté aux opérations de secours sur la digue de Vimereux.
Les médecins urgentistes sont sortis des ambulances pour essayer de soigner les gens. Ils ne sont pas parvenus apparemment à réanimer tout le monde parce que j'ai vu des gens transportés sur les civières avec des plastiques sur eux, donc c'est vraiment des gens décédés. Dramatique. Comment les gens peuvent un petit peu arriver au bout d'un très très long voyage et puis perdre la vie ici, quoi. C'est bien malheureux.
Une cinquantaine de migrants restés à bord de l'embarcation ont redémarré le moteur et ont repris la mer vers la Grande-Bretagne, mais ce drame s'ajoute aux 5 morts déjà survenus ici en janvier, ce qui suscite la colère du maire de Vimereux, Jean-Luc Dubel.
On a besoin de plus de services de police, gendarmerie, police nationale. 10 morts sur ma commune, 14 morts sur le territoire. Là, on doit réagir au niveau des frontières. Je sais pas, refiltrer au niveau des frontières, c'est pas possible de les laisser venir et puis les envoyer à la mort.
Ce midi, ils étaient encore plusieurs dizaines de migrants à errer dans les environs, tous en attente de nouvelles opportunités de traverser et toujours aussi déterminés malgré le danger et ce drame survenu ce matin.
Lionel Gougelot à Vimereux dans le Pas-de-Calais pour Europe 1. Et le Premier ministre britannique a réagi à ce nouveau drame des migrations entre la France et son pays. Il met en avant les bénéfices supposés de sa loi sur les expulsions vers le Rwanda adoptée à Londres la nuit dernière et très controversée. Selon Rishi Sunak, le décès des 5 migrants nous rappelle pourquoi ce plan censé décourager les traversées clandestines est nécessaire. Et si la France tentait de signer un accord similaire avec un autre pays, la justice s'y opposerait automatiquement. C'est l'avis de Maître Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris et auteur de l'ouvrage « La vérité sur le droit d'asile ». Il était l'invité d'Europe 1 Soir.
L'important, c'est que la demande d'asile soit présentée en dehors du territoire national ou en dehors de l'Europe. Or, aujourd'hui en France, c'est impossible parce que, comme dans de multiples domaines, mais spécialement en matière d'immigration, vous avez le Conseil constitutionnel qui s'y oppose. Et donc, vous avez un véritable gouvernement des juges qui est en place, ce qui fait qu'aujourd'hui, si le législateur français voulait suivre la voie britannique, il se heurterait une nouvelle fois à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et aussi du Conseil d'État.
Maître Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris et auteur de l'ouvrage « La vérité sur le droit d'asile ». Et puis Olivier Giroud va finir sa carrière sous le soleil californien. L'attaquant de 38 ans va s'engager l'été prochain au Los Angeles FC, où il retrouvera le gardien de but français Hugo Lloris. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus va s'engager pour un an et demi. Vous écoutez Europe 1, il est 22h09. Place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit.
Europe 1 Nuit, Maël Hassani.
L'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir, c'est le député La France Insoumise de Haute-Garonne, Adrien Clouet. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Alors, après la militante franco-palestinienne et candidate LFI aux européennes, Rima Hassan, c'est la patronne des députés insoumis, Mathilde Panot, qui a annoncé à son tour sa convocation par la police pour apologie du terrorisme. L'élu va devoir s'expliquer sur le communiqué publié par son groupe le 7 octobre, dans lequel les attaques terroristes du Hamas étaient qualifiées, je cite, d'offensives armées de forces palestiniennes. Adrien Clouet, ce communiqué, on vous en reparle sans cesse depuis sa publication. Désormais, ce sont les autorités qui s'emparent du sujet. Est-ce que, au bout du compte, vous regrettez les mots employés ?
Écoutez, moi je regrette rien. La seule chose que je regrette, c'est qu'on a une barbouzerie qui est absolument inédite en pleine campagne électorale. C'est la première fois qu'on essaye de tordre un communiqué qui était clair, qui condamnait toutes les violences exercées sur les citoyennes et citoyens palestiniens et israéliens. Et c'est la première fois qu'on s'appuie là-dessus avec des moyens de police et de justice pour attaquer la présidente d'un groupe parlementaire.
Dans ce communiqué, il y a quand même un parallèle qui est fait entre les attaques du Hamas et l'intensification de la politique d'occupation israélienne. C'est un parallèle qui est fait avec une attaque terroriste.
Attendez, c'est un parallèle chronologique. C'est-à-dire que les deux se déroulent en même temps. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y a plein de choses qui déroulent à des mêmes moments. Et en revanche, on n'aura pas de résolution de l'ensemble du conflit qui dure depuis des décennies si on n'a pas une application du droit international strict. Le droit international, c'est le droit à la sûreté et la vie pour toutes les populations, israéliennes comme palestiniennes, leur droit à un État souverain dans des frontières qui sont en sûreté. Voilà, ça a toujours été notre boussole, un point, c'est tout. Et on ne sera pas intimidé par je ne sais quel cabinet noir ou opération judiciaire montée par le parquet avec l'aval d'un ministère.
Alors, vous avez conscience que ces accusations que vous lancez sont assez graves. D'ailleurs, Mathilde Panot dénonçait tout à l'heure une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. On comprend que vous accusez quelque part le pouvoir en place de vouloir vous faire taire, mais en l'occurrence, c'est la police qui convoque Mathilde Panot. Le gouvernement n'a pas la main sur ce genre de décision.
Ah, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune opération judiciaire qui est organisée par le parquet contre une responsable politique.
Non, mais c'est la police. C'est la police qui convoque, en l'occurrence.
Oui, mais on fait toujours une remontée. Lorsque la police fait ce type d'opération, elle fait une remontée auprès des cabinets ministériels. Donc, le pouvoir a forcément approuvé ce type d'opération, ce qui signifie qu'il y a un message. Il y a un message qui est que, eh bien, le gouvernement français et son emploi des forces de police et de justice vise à couvrir les crimes de M. Netanyahou et à criminaliser, intimider et brimer toutes celles et ceux qui s'engagent pour la paix, dont Mme Mathilde Panot, ma présidente de groupe parlementaire de la France Insoumise.
Donc cette décision, selon vous, c'est l'expression de la volonté du gouvernement de couvrir, ce sont vos mots, le pouvoir de Benjamin Netanyahou en Israël.
Le pouvoir en entier, j'imagine pas, mais en tout cas, les crimes qu'il commet, oui, tout à fait. Le gouvernement français n'en est pas à sa première tentative. Vous avez bien vu qu'il y a des annulations de réunions. Il y a des coups de pression faits sur des universités par des élus de la Macronie. Oui, dans ce pays, aujourd'hui, M. Macron et ses alliés essayent d'empêcher que toutes celles et ceux qui se trouvent dans le camp de la paix, qui veulent le droit à la sûreté des Palestiniens et des Israéliens, puissent s'exprimer.
Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, dénonce également aujourd'hui, après cette convocation de Mathilde Panot, un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie qui a pour but de protéger un génocide. Quand il écrit ces mots, qui, Jean-Luc Mélenchon, précisément, accuse-t-il de protéger un génocide ?
Ah bah, c'est celles et ceux qui ont commandité l'opération policière et judiciaire en cours. Cette opération, vous aurez bien remarqué qu'elle cible exclusivement les voies de la paix, les voies qui demandent le cessez-le-feu, la fin de l'entreprise génocidaire en cours et le droit à la sûreté des peuples. Personne ne cible celles et ceux qui intimident les militants palestiniens, qui les agressent dans des réunions ou qui appellent à massacrer l'entièreté de la population palestinienne. Ceux-là ont le droit de parler sur toutes les ondes, tout le temps, sans jamais faire l'objet d'un rappel à la loi. C'est inadmissible et on voit très bien qu'il s'agit donc d'un agenda politique.
Je rappelle encore une fois que les convocations envoyées à deux membres de votre parti, Adrien Clouet, visent des expressions publiques concernant Rima Hassan, le communiqué du groupe LFI concernant Mathilde Panot et aucunement de simples soutiens ou alors de simples paroles sur les éventuels crimes de guerre en Israël. Ce sont des mots qui peuvent être assimilés à de l'apologie du terrorisme, qui sont dans le viseur en l'occurrence des autorités. Il faut quand même le rappeler.
Alors non, parce que l'apologie du terrorisme, ça veut dire qu'on incite ou qu'on invite à commettre des actes de terrorisme. Vous avez qu'à relire le communiqué que vous citiez tout à l'heure, il n'y a pas un mot ou une phrase qui rentre sous le coup de ce type d'accusation. Le communiqué dit littéralement qu'il condamne toutes les violences effectuées sur les populations et appelle au retour à la paix. Où est-ce que vous voyez du terrorisme là-dedans ? C'est-à-dire, on est sur un monde macartisme total où les mots n'ont plus aucun sens. Et par ailleurs, vous aurez bien remarqué qu'il y a aussi un dirigeant syndical de la CGT qui a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir distribué un tract qui demandait le cessez-le-feu entre Israël et Palestine.
Adrien Clouet, je rappelle que vous êtes donc député La France Insoumise de Haute-Garonne. La semaine dernière, une conférence sur la Palestine à laquelle devait participer Jean-Luc Mélenchon a été annulée. D'abord par l'Université de Lille, puis la Préfecture du Nord. L'ancien candidat à l'élection présidentielle n'a pas hésité, suite à ça, à comparer l'attitude du président de l'université à celle du criminel nazi Adolf Eichmann durant la Seconde Guerre mondiale. Le communiste Fabien Roussel a réagi. Il juge que sur ce coup-là, Jean-Luc Mélenchon est indéfendable. Et vous, Adrien Clouet ?
Bah, le problème, c'est qu'il n'a pas dit ça. Il a dit que ce type de comportement qui avait eu lieu dans ce moment-là, pas qu'à la fac, hein, dans toutes les autorités qui couvrent des actions génocidaires en interdisant d'en parler, effectivement faisait écho à la banalité du mal, c'est-à-dire pas que M. Eichmann et autres criminels nazis, la banalité du mal, c'est beaucoup plus large que ça. C'est l'ensemble de ces gens dans l'appareil d'État qui, par indifférence, par lâcheté, par approbation du pouvoir en place ou servilité, eh bien, acceptent que soient menés des génocides parce qu'ils ne veulent pas le voir ou alors qu'ils veulent y contribuer chacun à son petit bout. Bref, c'est la dissolution générale des responsabilités. C'est effectivement ce à quoi on assiste ici. Il ne s'agit pas de cibler des personnes, il s'agit de cibler un processus qui est extrêmement dangereux, qu'on a déjà connu dans ce pays et par ailleurs, qui aujourd'hui se discute derrière sa place publique en Israël. Vous avez plein d'Israéliens et d'Israéliens qui vous disent que eh bien, les entreprises génocidaires en cours sont dues à la passivité de tel ou tel acteur public.
Dernière question, Adrien Clouet, vous êtes député LFI et membre de la commission spéciale dédiée au projet de loi sur la fin de vie. Quelle position défendez-vous dans ce débat ? Le modèle présenté par le gouvernement, donc une aide active à mourir pour les patients dont le pronostic vital est engagé et qui souffrent de douleurs réfractaires, c'est suffisant ou il faut aller plus loin ?
Alors d'abord, on travaille ici, effectivement, de manière assez large, y compris avec le gouvernement, parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire dans le moment. On peut amender, on peut essayer d'aller plus loin, mais il est important de reconnaître un droit. Ce droit, c'est celui d'éteindre la lumière lorsqu'on le souhaite, parce qu'on a mal, parce qu'on souffre, et surtout de pouvoir le faire au moment qu'on veut, c'est-à-dire entouré de ses proches et pouvoir partir dans un moment où on a de l'amour autour de soi. Voilà, nous, c'est ça qu'on défend, c'est ce droit-là. On le défend d'ailleurs depuis le début, dès 2012, Jean-Luc Mélenchon avait fait campagne à l'élection présidentielle en défendant le droit à mourir dans la dignité. Ça fait partie de notre ADN politique, parce que c'est la souveraineté en fait de soi, c'est le droit à disposer de son propre corps. On a l'interruption volontaire de grossesse, on a donc le droit de contrôler le début des existences et avec le droit à mourir dans la dignité, on a aussi le droit pour soi-même de décider de ce qu'on fait de son corps lorsqu'on ne supporte plus.
Et les conditions fixées par le gouvernement, du moins avancées par le gouvernement jusqu'à maintenant, vous semblent suffisantes ? Il ne faut pas aller encore plus loin dans élargir peut-être le nombre de patients ou les types de maladies qui pourraient être concernés par cette aide active à mourir ?
Alors, c'est pas directement des maladies qui sont concernées, c'est les affections, c'est-à-dire les effets de la maladie. Donc, en cela, nous, ça nous va, il n'y a pas une liste restrictive. Les sujets sur lesquels, en revanche, on va avancer et discuter, c'est notamment les directives anticipées. Comment on fait lorsque quelqu'un est privé de conscience et que pourtant, il a demandé peut-être à pouvoir ne pas avoir d'acharnement et ne pas revenir dans une situation X ou Y. Comment on trouve la personne de confiance chargée de cela ? Et également, comment on fait pour que ses proches autour, par exemple, bénéficient d'un congé de deuil. Lorsque, par exemple, vous allez accompagner votre meilleur ami qui vous a fait confiance parce qu'il voulait partir, il souffrait trop, et vous êtes la personne qui l'a accompagné. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit à un moment de deuil, à un congé qui vous est reconnu. Ça fait partie des droits, nous, que nous souhaitons ouvrir et nous allons essayer de convaincre nos collègues de le faire.
Merci beaucoup, Adrien Clouet. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de Haute-Garonne. Merci d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Nuit ce soir.
Merci à vous.
Un mot maintenant des marchés financiers, le CAC 40 qui repasse la barre des 8100 points, plus 0,8% à 8105 points précisément, donc pour la Bourse de Paris. Et du côté des États-Unis, Wall Street termine en hausse, plus 0,69% pour le Dow Jones, plus 1,59% pour le Nasdaq. La météo désormais avec vous Marlène Duret, et de nouvelles pluies arrivent.
Oui, c'est une perturbation qui va glisser du nord-ouest vers le sud-est et qu'on va retrouver donc demain matin de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la région Grand Est, en passant par une partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Alors sur cette diagonale, prévoyez quelques pluies, mais aussi quelques flocons et jusqu'à très basse altitude, hein, à partir de 300 mètres par exemple en Lorraine, ce qui veut dire dans de nombreuses villes, on verra un petit peu de neige tomber en fin de nuit ou encore demain matin. La limite pluie-neige va remonter dans l'après-midi et de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que les nuages seront extrêmement nombreux, les éclaircies très courtes, petit risque d'averse, surtout là où on avait la perturbation, et puis le soleil qui régnera en maître du Roussillon à la Provence, avec toujours le Mistral et la Tramontane qui resteront soutenus jusqu'au département du Var d'ailleurs. Les températures, alors la nuit étant moins claire, moins de gelée dans les régions de la moitié nord demain matin. Concernant les maximales, prévoyez 8 degrés dans le Doubs, 9 à Nancy, 10 à Lille et Rouen, 12 à Paris ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 13 à Tours et Toulouse, 14 à La Rochelle et Montélimar et 15 à 18 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Marlène Duret. Olivier Delacroix, voyez cette précision à toute épreuve, 22h20 tout rond, je vous rends l'antenne
vous
pour la Libre Antenne.
Vous êtes parfait, je ne cesse de le dire et de le clamer.
Trop. Vous le dites trop, je vais finir par croire que vous ne le pensez pas.
Ah mais non, je ne remettez pas ma parole en doute s'il vous plaît.
Jamais.
Vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis, la parole des auditeurs, elle est totalement sacrée.
C'est vrai.
Et vous ne cessez d'être... Vous ne cessez d'être clamé comme étant un journaliste incroyable, un jeune journaliste brillant.
Vous êtes beaucoup trop gentil avec moi. Ce qui est parfait, c'est la Libre Antenne, jusqu'à 1h du matin. Les auditeurs le disent aussi, et ils peuvent vous appeler, comme tous les soirs, au 01 80 20 39 21.
Exactement, et ces auditeurs le savent, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Julia, Florian et Laurent Pelé sont en régie, et ils peuvent nous appeler dès maintenant. Nous attendons leurs appels. Je vous avoue que j'étais un peu sidéré par l'interview que vous venez de réaliser.
Député de la France Insoumise, Adrien Clouet.
Adrien Clouet, de la France Insoumise. Je suis sidéré d'entendre des choses pareilles, mais d'un bout à l'autre. Ce monsieur, en plus, a le toupet de clamer que les mots ont un sens et une importance. Et j'entends un politique, quand même, un politique donc qui a des responsabilités, clamer... Mais au moins trois ou quatre fois des mots faisant résonner toujours le complot, la théorie du complot d'un gouvernement qui opère donc sur la police, sur le parquet. Mélenchon qui compare Eichmann à un président d'université. Où est la vieille gauche humaniste, empathique? On est, mais vraiment, c'est sidérant. Ça me fait, moi, ces gens-là me font très peur. Voilà, je voulais vous le dire parce que je me pose à la place de toutes celles et ceux qui ont écouté cette interview et qui ne connaissent pas grand-chose à tout ça. Et s'ils prennent au mot ce monsieur, mais vous vous rendez compte, on dirait qu'il parle de maccartisme, de chasse donc aux sorcières, les pauvres insoumis qui sont chassés et qui n'ont plus le droit de parler. Sauf qu'aujourd'hui, les insoumis ont bien compris que on est dans la culture du choc, des mots justement qui choquent. Et après ça, il n'y a plus rien. Il y a un grand vide qui résonne, avec peut-être Monsieur Mélenchon qui clamera encore une fois de plus qu'il est la République. Bien, mon Dieu, Dieu merci, il n'est pas la République. Et j'espère que ça va durer comme ça. Voilà, on vous retrouve à 23h,
tout à fait.
Mon cher, pour un nouveau tour de l'info. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver chers amis, je suis très heureux de passer, c'est presque 2h30 ensemble, 2h40 même puisqu'il est 22h23 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, comme vous l'a dit Maël Hassani, composer le 01 80 20 39 21, vous le savez, nous sommes là pour vous écouter. Vous pouvez aussi nous écrire vos SMS au 739 21. 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Vous pouvez aussi écrire vos messages en privé sur le groupe Facebook de La Libre Antenne, Olivier Delacroix, Valérie Darmon, La Libre Antenne, où nous accueillons 5 nouveaux membres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 5 membres pour devenir 20 000 membres de cette communauté. Alors continuez de partager et peut-être demain soir, peut-être que je vous annoncerai que nous sommes 20 000 et que cette communauté numérique de La Libre Antenne est la plus importante non seulement d'Europe 1 mais sûrement de beaucoup de radios françaises. Donc n'hésitez pas à partager. L'adresse postale de La Libre Antenne, pareil, Valérie Darmon, Olivier Delacroix, Europe 1, 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Et puis vous pouvez adresser vos mails à Julia ou à Florian à libreantenne@europe1.fr. Vous le savez, si vous traversez une situation délicate, difficile dans votre famille, dans votre couple, si vous avez une histoire d'amour comme Fatma qui nous a appelé hier soir et qui ne savait plus très bien où elle en était sur une histoire d'amour, en tout cas d'une passion naissante, eh bien c'était très intéressant d'échanger avec cette jeune femme qui a sûrement pris quelques bons conseils hier soir lors de cette libre antenne, donc n'hésitez pas. Un problème d'amour, j'aime bien parler d'amour, moi j'aime bien et je me sens capable de vous apporter quelques éclaircies sur ce type de problème, donc n'hésitez pas. 01 80 20 39 21. Votre libre antenne du mardi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Fatia sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Fatia.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Fatia?
Je vous appelle de Beauvais.
De Beauvais.
Dans l'Oise.
D'accord.
De Beauvais dans l'Oise.
Oui.
J'ai 69 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Fatia?
Je vais vous parler de l'association Destin de Femmes.
Destin de Femmes, d'accord.
Destin au singulier,
que vous présidez,
au pluriel.
Que vous présidez.
Que je préside, oui.
Alors, vous avez créé cette association dans le quartier Saint-Jean de Beauvais, en 2005, Fatia, cela répondait à quel contexte, quelle demande?
Cette association, c'est mon histoire.
D'accord.
Dans le passé, je subissais beaucoup de violences conjugales. J'ai aussi subi une autre violence que je ne souhaite à personne. Mmh. Mais ici, c'était très, très dur d'être écouté ou d'être accompagné pour les souffrances. Violence conjugale, quand j'allais, par exemple, voir au commissariat pour leur dire, je voulais juste que quelqu'un se déplace et dit à mon mari qu'il est interdit de frapper. Personne ne m'a accompagné, personne ne m'a aidé. J'ai frappé à toutes les portes, toutes les structures qui étaient mises en place, je les ai sollicitées, aucune. Du coup, j'avais que le temps à compter et puis attendre que mes enfants grandissent. J'ai attendu que ma dernière fille, qui a eu 16 ans, j'ai créé l'association parce qu'à 16 ans, pourquoi 16 ans? Parce qu'à partir de quand l'enfant il a 16 ans, oui, il a le choix.
Il peut s'émanciper un peu,
il est
je crois.
Oui. De dire je reste avec ma maman, on ne l'oblige pas à y aller avec papa. Mmh, mmh. Voilà. Et c'était très difficile. Moi qui ai grandi dans le désert algérien, j'étais très, très, très heureuse. Les hommes, déjà, ont décidé de mon destin. C'est pour ça que je l'ai appelé destin, pas destin. Parce que quand j'appelais pour dire à ma mère, paix sur son âme, j'ai envie de quitter mon mari parce qu'une frappe, une ça me dit, oui, non, non, tu restes, c'est ton destin. Et puis nous...
C'est ton destin, vous disiez votre maman?
C'est mon destin. Elle me disait aussi, c'était une femme formidable, elle me disait... Tu vas voir, les enfants vont grandir, ça va passer.
Ça va passer.
Il faut patienter. Et ici aussi dans cette 5e République où je croyais que la femme elle avait toute sa place, normalement, c'était très difficile. Et pour moi et pour d'autres femmes, c'était très difficile. Déjà, on ne prenait pas la plainte, il fallait des ITT. Il fallait plus de 3 jours d'ITT, vous vous rendez compte? C'était pas si vieux que ça. Oui. Mais il n'y avait rien, la plainte, on ne prenait pas la plainte. Moi, un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une infirmière à l'hôpital parce que j'avais subi mon mari m'avait beaucoup frappé, j'avais 3 côtes de cassé.
Qu'est-ce qu'il avait à vous frapper comme ça, votre mari? Qu'est-ce qui lui arrivait là?
Mon mari, je ne sais pas, c'était parce qu'il travaillait, et puis du jour au lendemain, l'entreprise où il travaillait, elle a modernisé l'entreprise, et lui, c'était quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire. Oui. Il a été licencié.
D'accord.
Sachant que on est allé le chercher là-bas pour venir travailler en France. Et puis du coup,
C'est désorganisé.
C'était moi, son souffre-douleur.
D'accord. Ouais. Il buvait un peu aussi?
Non, il n'y buvait pas. Il fumait pas. Et quand j'allais voir un jour, je crois qu'il voulait m'écraser avec la voiture. Et il me coursait avec la voiture. Mmh. J'ai eu mes 2 enfants. Ils étaient petits. Hein. Un, il est venu à ma droite. Un, il est venu à ma gauche. Il courait avec moi et j'atterris au commissariat du quartier. Je suis rentrée, il était 6h-10 et le policier, j'ai dit « Monsieur, mon mari me course et puis il veut m'écraser ». Il m'a dit « Enferme, vous revenez demain ».
C'était dans quelle année ça, Fatia?
C'était dans les années 94. Oui.
C'est fou. Il y a 20-25 ans, combien les femmes n'étaient absolument pas protégées et combien on peut reconnaître qu'aujourd'hui, ce combat-là a tout de même largement avancé. Et surtout, je le dis, Fatia, pas au gouvernement successif, un peu quand même parce que la loi s'est durcie, mais surtout aux associations et aux femmes courageuses comme vous, Fatia, parce que c'est surtout les voix de ces femmes qui a résonné de plus en plus et qu'on a fini par relayer, nous les médias. C'est grâce à vos voix, à vous. Hein.
C'est grâce aussi aux médias, Olivier, parce que c'est les médias qui ont mis tout ça. Le gouvernement actuel, il a mis la cause tout en haut.
Oui.
Mais on est, Olivier, le 17 avril, 35 femmes qui sont mortes sous les coups
mais
de
l'homme. Il a mis comme cause nationale et cause prioritaire les violences faites aux femmes, mais ça n'a pas avancé, Fatia? Ça n'a pas avancé?
Je vous dis que moi, je suis au contact de ces femmes qui viennent frapper chez moi il n'y a pas longtemps, là, il y a une heure, elle est sortie en pleurant. Après, je lui ai donné rendez-vous demain. J'ai dit, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Elle était amochée. Enfin, commissariat, c'était le problème.
Quel âge avait-elle?
Elle avait 35 ans.
Mon Dieu, 35 ans. Et elle était amochée comment, alors?
Elle était amochée par des insultes et puis un coup de pied. Enfin, c'était amochée, je dis. Quand je dis, c'était une tristesse de...
Vous savez, Fatia, qu'en Espagne, ce mec qui a frappé sa femme ce soir d'un coup de pied, il pourrait voir débarquer la police chez lui, il pourrait dormir en prison dès ce soir.
Mais l'Espagne, ils ont fait beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Pourquoi en France, on ne fait pas comme l'Espagne?
Je ne sais pas à qui crier. Moi, j'ai crié sur toutes les... Là, maintenant, j'ai créé l'association parce que moi, c'était... Elles n'ont pas besoin de parler. Quand je la vois, les choses, je les ai vécues. Je sens dans quelle sa souffrance. J'essaie d'appeler les services compétents parce que, Olivier, je ne suis pas compétente, je n'ai pas les moyens, mais je fais beaucoup de choses. Mais moi, quand j'ai créé l'association, pour camoufler, pour dire, voilà, c'est pas, j'ai pas mis une association spéciale pour eux. C'est vrai, le premier sujet, c'était les violences faites aux femmes, parce que c'était la chose qui me tenait à cœur. Mais moi, je suis tournée beaucoup ces femmes, essayer pour libérer la parole, pour briser le silence. J'aurais dit, on fait des débats, on fait des sorties, on fait des repas thèmes. Mais quand j'ai créé l'association, c'était quoi la société? Quand je croisais quelqu'un, un fonctionnaire, oui. Quelqu'un qui au place, c'est un élu, elle me dit, ah oui, vous allez faire du couscous, des gâteaux. J'ai dit, je fais tout sauf la cuisine. Je fais tout sauf la cuisine. Elle sort de chez elle à une heure pour venir s'épanouir ou voir autre chose que vous voulez que je leur fasse de la cuisine. En fait, la cuisine entre nous, c'est pour notre plaisir. Un truc à partager, je sais, c'est un art, la cuisine. Oui. Mais on nous a étiqueté la cuisine. C'était de toute origine, de tout niveau. C'était la seule. Ah oui, vous allez faire. Mais on est en retard.
Oui, en retard. Oui.
Mais je n'exclus pas les hommes, parce que l'homme, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon fils. Aussi, on a besoin de les intégrer, mais on a aussi besoin de dire à ces hommes, non, la femme, c'est pas un objet. La femme, elle doit être respectée. La femme, c'est quelqu'un. La femme, c'est ta femme. Enfin, bon, voilà. Après, on n'a pas ce courage, parce que tous les jours, Olivier, on entend un qui a abusé, il a fait tous les jours, on entend même des politiques. Bon, voilà. Et la femme haut placée, je vous l'ai dit, la femme haut placée, elle souffre aussi. Il y a des femmes qui sont...
Bien sûr. Il y a des femmes qui sont dans des quartiers bourgeois, mariées, oui, avec des cadres supérieurs, des patrons, des médecins.
Elles souffrent
aussi, bien évidemment. Vous avez raison de le souligner, car il n'y a pas de couleur ni cadre social, hein, spécifique dans les violences faites aux femmes, du bas de l'échelle jusqu'en haut, des femmes souffrent. Mais ces femmes, Fatia, elles vous parlent, elles ne se sentent pas protégées aujourd'hui par la police, par le gouvernement. Est-ce qu'elles se sentent protégées ?
Écoutez, nous les femmes, la police, c'est un autre sujet, parce qu'elles ont encore cette hésitation. Parce que quand va la police, c'est long. Maintenant, ils ont mis des choses pour accélérer que le téléphone sortir le mari le mari violent, oui, le mettre ailleurs, tout ça. Mais c'est très, très, très difficile. La femme, elle n'a pas le travail. Elle a peur de se retrouver dehors. Elle a pas, c'est les enfants. Toutes ces choses-là, elle pense, elle m'a dit, oui, mais tu sais, Fatia, si je vais à la police, on va lui dire que c'est lui qui travaille. Moi, je ne travaille pas. Le logement, il est à son nom, c'est lui qui paye le loyer. Il y a plein de choses, mais on avance. On n'est pas quand même à mon époque, Anna. Moi, c'était très 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 difficile. J'avais avant le silence et la souffrance, Olivier. Maintenant, depuis que j'ai créé l'association, je n'ai plus ce silence. Je parle, j'interpelle. Quand j'ai créé l'association, on avait Madame Rachida Dati, qui était ministre de la justice. Elle est venue à Beauvais, je l'ai interpellée. Madame Rome, qui avait aussi une association Parole de Femmes dans l'Oise. On a échangé, on a fait des projets ensemble, qui est ministre déléguée des droits des femmes. J'ai interpellé à l'époque, je me rappelle, Rachida Dati, j'ai interpellé M. Sarkozy, j'ai interpellé, parce qu'une fois il est venu dans ma ville, il est venu pour les retraites, je crois. Après, il est venu avec 20 messieurs. Et à la fin, moi j'ai dit à un journaliste, il vient dire la dignité des femmes et il vient avec 20 bonhommes. Est-ce qu'il n'y a pas de... Ils sont où les femmes de la République ? Et j'ai eu une réponse comme ça, parce que je me lance comme ça, ma souffrance, elle me remonte et les mots arrivent sans... Moi, je dis, le français, je l'ai appris sur le champ, mais avec le peu, je ne comprends... Enfin, je ne cherche pas à améliorer la phrase ou quoi. Le sens, il est compris, ça me suffit.
Oui, et vous savez, moi, j'ai une théorie. Sur le fait de toutes ces violences exercées sur les femmes aujourd'hui qui ne sont pas punies à leur juste valeur. Je vais vous dire, moi je crois qu'aujourd'hui, un détenu, eh bien ça coûte cher. Et malheureusement, eh bien on ne veut pas payer pour ça. On préfère, en tout cas, on préfère, oui, ben oui, on préfère laisser en liberté un homme qui frappe sa femme, alors qu'un homme qui frappe sa femme, c'est un meurtrier en puissance. Parce qu'un coup, un seul coup peut tuer une femme. Un homme est beaucoup plus fort qu'une femme. Donc un seul coup, un coup de pied. Vous me parlez, on prend le dernier exemple que vous m'avez cité, Fatia. Cet homme qui ce soir met un coup de pied à sa femme, mais il peut la tuer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté affichée de durcir la politique contre les hommes violents. Alors, on leur fait faire des stages, on les soigne, ce qui est plutôt bien, ça. Mais je pense qu'il faudrait avoir une réponse beaucoup plus ferme. Croyez-moi, en Espagne, si les chiffres sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, Fatia, c'est que tout un tas de mecs qui frappaient leurs femmes en toute impunité avant, eh bien, aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent dormir en prison le soir même pour une claque. Alors, ça change largement la donne. Et puis, pour les féminicides, je ne vous en parle même pas. Le nombre de féminicides en France... Oui, mais en France, janvier, février, mars, avril, 35... 35 femmes sont mortes depuis début janvier. L'année dernière, il y a autant
134.
Autant de femmes que l'année d'avant, et que l'année d'avant, et que l'année d'avant, et que l'année d'avant. Ça augmente. Et puis, voilà, on a un gouvernement qui met les violences faites aux femmes comme cause nationale. Mais qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a changé pour vous, les femmes ? Rien. Il n'y a pas de cadre législatif qui puisse inverser la tendance. Et en fait, que la peur change de camp. Aujourd'hui, les mecs violents frappent, mais sans avoir peur. Ils savent qu'ils vont avoir un rappel à la loi, qu'ils vont peut-être... avoir peut-être aller un peu de garde à vue, mais encore, quand c'est grave, une claque, un coup de pied, un nez cassé, une arcade sourcilière ouverte, un œil au beurre noir, une dent cassée, une côte cassée, c'est pas grave. Elle est toujours debout. Elle est toujours debout. Voilà comment ça marche en France.
Olivier, à mon époque, moi, la police, à l'époque où j'allais pour demander de l'aide, la police me dit, c'est chez vous, c'est comme ça, c'est dans votre culture, vous devez, c'est comme ça. Chez vous, l'homme, il a le droit de frapper la femme.
Oui, sauf que je le dis ce soir, que ça soit chez les Nord-Africains, les Africains... les Nord-Africains, les Africains de l'Afrique australe, les Blancs de l'Europe entière, il y a de la violence faite aux femmes partout. Il n'y a pas de couleur dans la violence faite aux femmes. Il n'y a pas de classe sociale dans les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes d'avocats qui appellent la libre antenne, des femmes de cadres supérieurs, des femmes même de dirigeants d'industrie. Importante.
Ah oui, les femmes chefs d'entreprise.
Mais bien sûr.
Les femmes... moi, j'ai rencontré une femme médecin. un jour, et après que moi j'ai pas un petit peu parlé, je pleurais, j'étais en souffrance, et elle m'a dit, vous savez, je suis toubib, comme ça. Et mon mari, il me donne des claques, ou il me tire par les cheveux, et je suis... Voilà. Elle est médecin,
elle. Elle est médecin, ouais.
Ouais. Mais celle qui a un petit peu honte, parce que là, sa place, elle a honte de parler, celle qui est enfin, nous, les petites femmes, là, comme on dit, les petites femmes de la classe moyenne.
Mais oui, oui. Alors imaginez, comment ça brise ces
le silence. Mais,
oui,
mais Olivier, les femmes ne parlent pas. Nous, on déjoue. On fait des sorties. On les. J'ai de la chance. La ville de Beauvais me met à disposition un local. Le local, il y a une porte qui donne sur l'extérieur, une porte par la cage d'escalier où tous les habitants rentrent. Elles sont contentes parce qu'elles passent par la cage et elles viennent par la porte de derrière, à l'intérieur du bâtiment. On la voit pas qu'elle est rentrée au sein de l'association. Mmh. Voilà, c'est pour vous dire, la peur, elle les accompagne. C'est une honte. On est en 2024 et il y a encore des choses. La loi n'est pas ferme pour punir, voilà. comme vous dites, tout de suite. Il faut tout de suite que la justice passe. Du coup, nous, on a choisi aussi, j'ai parlé à Julia avec, on a choisi, parce que j'ai vu que la justice, c'est lent. La police, c'est lent, parce qu'il faut porter plainte. La plainte, il faut qu'elle soit, que la justice s'en occupe, qu'il va être convoqué. Mais du coup, un jour, j'ai vu que c'était très long. On n'avait pas... J'ai une maman... Puis sur son âme, elle a quitté ce monde. Elle était au sein de l'association, elle apprenait les cours de français. Ouais. Et après, je l'ai interpellée, j'ai dit, elle a une fille qui était ceinture noire, policière. J'ai dit, j'aimerais bien que Dalila vienne donner les cours de self-défense.
Ouais.
Et je suis partie la voir. Et ça a beaucoup donné... De satisfaction, parce que moi j'ai dit, venez apprendre les gestes qui sauvent. J'aurais préféré que ces gestes maîtrisés à l'époque où mon mari me traînait dans la salle par mes cheveux, les coups de pied sur le nez, sur le
mon
visage,
Dieu,
sur le ventre, tout ça.
Oui.
Et j'ai dit, quoi, moi je suis quelqu'un, mes enfants hurlaient autour de moi et pas d'aide. On appelait, pas d'aide, pas personne. Et du coup, Dalila, elle est venue, elle a commencé à leur donner comment se défendre. Elle m'a dit, et j'ai dit, juste pour éviter le coup fatal. C'est pas apprendre à se battre, c'est juste
non, apprendre. Se défendre.
Moi, je les ai appelés les gestes qui sauvent.
Ça apprendre à se défendre, oui.
Il y a le journal, le magazine Maxi qui a fait cette semaine un article sur ça.
Mmh.
Et ça a beaucoup plu. Mais moi, j'ai dit, je n'ai pas exclu non plus. J'ai dit, toute personne fragile qui a envie d'apprendre les gestes qui sauvent, garçon, fille, femme ou monsieur, sont les bienvenus. Moi, je n'ai pas fermé la porte. Je n'ai pas mis cas aux femmes parce que il y a aussi des hommes ou des petits jeunes parce qu'il est pas, enfin, il se fait frapper ou il se fait humilier.
Oui.
Et sont venus. Il y a quelques jeunes qui sont venus garçons. Et du coup, j'ai demandé à monsieur le maire de ma ville de, moi, j'ai dit, j'ai pas les moyens et j'ai pas le, de continuer ça. J'ai dit, j'aimerais bien, et c'était fait exprès, j'aimerais bien que c'est la ville qui prend ça, ce sport, enfin, ces gestes qui sauvent, dans les centres sociaux, dans les quatre quartiers prioritaires à Beauvais pour apprendre les gestes qui sauvent et qu'ils les mettent à la disposition des citoyens, toute personne qui a envie d'apprendre le coup du tibia, le coup du nez, plein plein de choses. On est sur l'émission, enfin les cours, quelques chaînes, ils sont venus faire un reportage, ils sont sur Internet. Dalila, en plus, on a la chance. Dalila, elle est policière.
Elle est policière, d'accord.
Elle est policière dans le 95.
Oui.
Elle n'est pas Beauvais. Et puis, elle est une fille du quartier. Mmh. Et elle vient, elle a répondu oui.
Ça, c'est bien, ça. C'est bien, c'est parfait.
Elle a appris ses premiers gestes. Il faut que ça aussi, puisque c'est long. On n'a pas le... La justice, c'est comme ça, c'est long. Il y a des lois, comme on dit. On me dit, oui, il y a des lois, il faut attendre que la loi... Si madame, elle n'est pas blessée, qu'elle ne saigne pas, ou elle n'a pas...
Tu parles, bien sûr.
Elle n'est pas égorgée, on ne passe pas le monsieur, on va le convoquer, on va faire de la médiation, on va faire... Non.
À la médiation, on est fort pour la médiation, ça, il n'y a pas de problème.
Ah bah, je ne sais pas. On est... moi, j'ai... Olivier, moi j'ai frappé, moi je leur dis, je les connais même les têtes des gens à qui je pleurais. Je dis, monsieur le policier, s'il vous plaît, je voulais juste venir chez moi. Il dit, juste à mon mari, j'ai dit, va arrêter parce que je sais qu'il a peur de la police. Il m'a dit, non, on n'est pas là pour jouer au shérif. Heureusement qu'ils ont changé là, maintenant, ça... C'est douloureux et c'est très long et c'est triste parce qu'on est quand même dans la cinquième puissance ou sixième du monde et on a en trois mois, quatre mois, 35 femmes. Vous vous rendez compte, 35 quand je vois ça.
C'est terrible, c'est terrible.
Même si je suis malade, on m'appelle, je me lève, je dis oui. Il faut que j'aille, il ne faut pas qu'elle retourne chez elle comme je retournais chez moi sans résultat, enfin sans aide. Un jour, quand je suis rentrée au commissariat, quand mon mari m'a coursé, le policier m'a dit, je vais enfermer madame, vous revenez demain. J'ai dit, monsieur, je n'ai pas où aller, il me course avec une voiture, il veut me craquer.
Oui, bien sûr.
Je suis rentrée dans une cabine téléphonique, il y a un numéro d'urgence là. J'ai appelé à ce numéro, je me rappelle, et je dis, je suis en détresse, j'ai peur, je reste une semaine ou 10 jours après, je reçois, Olivier, je reçois un courrier, enfin une petite carte de l'assistante sociale, où elle m'écrit, je l'ai encore cette carte, où elle m'écrit, vous êtes prié de se présenter à mon bureau à 10h, tel jour, telle heure. La présence de votre époux est obligatoire. Vas-y, Olivier. Moi, je me cache pour aller voir l'assistante sociale ou aller voir. Et elle me demande de ramener mon mari pour aller chez elle et lui dire oui. L'assistante sociale, elle nous convoque parce que je suis partie la voir pour lui dire que tu me frappais. Imagine les coups et la violence que je vais... Voilà, c'est triste et c'est véridique. J'ai gardé tout et c'est dans ma tête plus sur les papiers. À tous les endroits où j'ai frappé, c'est maintenant quand j'écris l'association, quand j'accompagne, je ne suis pas compétente. Mais j'envoie la personne, je prends le téléphone, j'ai dit ce qu'il en est de Madame Antel, elle est venue vous voir pour voir ce qu'il en est, est-ce que son dossier avance, est-ce que... Voilà, c'est qu'avec la bouche et la souffrance, parce que ça me réveille ma souffrance et ça me donne encore de l'énergie pour essayer de les accompagner. Bon, voilà. Les femmes... autour de moi, elles ont réussi à briser le silence, à prendre leur destin en main. La première des choses que j'ai faites, quand j'ai créé l'association, j'ai mis en place les cours de français. Elles viennent apprendre le français parce que c'est important qu'elles parlent le français pour s'exprimer. Depuis 2005, on a des professeurs à la retraite qui donnent des cours de français. On sensibilise beaucoup, mais on ne veut pas trop dire la violence faite aux femmes. Une fois, c'était Radio Bleu qui sont venus faire un reportage. Mais quand on veut parler du sujet, on fait un repas, on dit voilà, on a un après-midi repas autour, et c'est là on aborde le sujet, on parle que la loi elle est passée, la loi c'est interdit. Il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit. Et le frère aussi, je parle du frère pour sa sœur. Il y a beaucoup de jeunes filles. C'est pire que nous, les jeunes filles subissent.
Oui, mais vous savez, Fatia, tous ces frères aussi qui donnent des leçons à leurs sœurs dans les quartiers, hein, au nom de soit de la religion et puis qui fument des pétards, qui jouent à la PlayStation et qui ont des conduites pas très appropriées.
C'est pas des modèles.
Hein, non, ce sont loin d'être des modèles, et le nombre de jeunes filles de quartier dont j'ai recueilli la parole pour mon émission de télévision et qui m'ont dit qu'elles quittaient le quartier, qu'elles se changeaient une fois dans le bus pour aller à l'école, ou le samedi pour partir en centre-ville, et qu'elles se changeaient une fois arrivées dans les magasins parce que leurs frères leur donnaient des coups ou les empêchaient de sortir si elles n'étaient pas carrément habillées des pieds à la tête, recouvertes des pieds à la tête. Non mais où est-ce qu'on va ? Cette violence-là exercée, encore une fois, elle ne peut plus durer. Le problème, encore une fois, Fatia, c'est que malgré les associations qui ont des petits moyens comme la vôtre, mais qui agissent, tant que nous n'aurons pas un gouvernement déterminé à appliquer la loi comme celle que nos cousins espagnols appliquent aujourd'hui pour protéger les femmes, ça n'évoluera pas. Aujourd'hui, un détenu coûte plus de 450 euros. Voilà où est le problème. Aujourd'hui, on préfère continuer à faire la chasse aux dealers de hashish et remplir nos prisons avec ça, plutôt que de protéger les femmes. Mais moi, je fais ce genre de parallèle, je n'ai pas peur. Aujourd'hui, alors qu'on est dans une Europe dont 21 pays ont légalisé le cannabis, nous, on continue à envoyer nos policiers et donc à monopoliser nos policiers sur un combat qui est perdu d'avance. À côté de ça, voilà, on continue à avoir une politique permissive pour les hommes violents. Et tant qu'on n'aura pas un politique qui aura vraiment le courage de prendre de vraies décisions et de faire voter de vraies lois, eh bien, on continuera à voir des femmes mourir, on continuera à voir des femmes être blessées, on continuera à voir des femmes harcelées par leur mari, par leur compagnon ou par leur frère. Voilà, c'est ce que je pense. Oui. Et votre témoignage de ce soir ne fait que refléter une situation qui est catastrophique. 35 vies, Fatia, 35 vies depuis le début de l'année.
Aussi, 7 avril.
Mais mon Dieu,
On est 35. Une, elle a été quoi ? Elle était à quoi ? 100 mètres d'un commissariat. Elle était aspergée d'essence. Elle brûlait vite devant ses enfants. Enfin, je reviens sur la il faut qu'ils sachent qu'une société où les femmes, elles sont protégées, elles brisent le silence, elles ne subissent pas automatiquement dans une famille où quand la mère elle va bien, 90% le reste de la famille ira bien.
Parce que tout pose, vous savez, ça fait longtemps que je clame qu'une société qui ne protège pas ses femmes est une société qui continuera d'aller mal. Une société qui ne protège pas l'intégrité physique des femmes, des mères, des filles, est une société qui continuera de boiter et continuera d'être une société malade. Car il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes de discours tant que les femmes
imagine
ne se sentiront pas
enfants,
en sécurité.
Olivier, imagine les enfants.
Oui, qui sont spectateurs de tout ça.
Bah, ils savent, ils subissent la violence. Moi, j'ai fait des psychologues moi-même. J'ai passé des nuits, j'ai mis que la violence de mon mari, c'est parce que c'était le licenciement, parce que c'était ça, parce que je parlais beaucoup à mes enfants. Mais j'ai pris sur moi beaucoup, beaucoup, pour les protéger. Mais il y a des séquelles. Ça
vous savez, j'ai fait un film qui a été diffusé en début d'année sur justement les séquelles et les blessures que ces enfants gardent hein, et subissent, spectateurs de ces coups donnés à leur maman ou à leur sœur, ou des enfants qui prennent des coups aussi en même temps que la maman. Et ce film est encore visible sur la chaîne YouTube de Dans les yeux d'Olivier. Oui. Si vous voulez le regarder, aujourd'hui, les enfants, vous avez raison de le dire, Fatia, sont victimes collatérales de ces violences. Et c'est pareil, il va falloir, même si la loi a avancé là-dessus, il va falloir se pencher sur tout ça.
Parce qu'il faudra sensibiliser, il faudra aider les femmes à briser le silence, à parler, leur donner au commissariat quand elle va, parce que moi j'ai des retours, je leur dis va au commissariat, parce que c'est un moi je leur laisse le choix d'y aller toute seule, traverser ce seuil du commissariat pour qu'elle ne regrette, si un jour elle regrette, elle dit oui. Je suis allée de mon propre gré moi-même.